BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy saison 13 avec Nicolas Dose.
Bonjour et bienvenue BFM Academy. Alors ils sont trois à nouveau cette semaine. C'est Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice.
Bonjour Nicolas.
Qui a choisi d'abord parmi les dizaines et dizaines de candidats que nous avons castés, les trois qui sont là aujourd'hui. Il va devoir, il va d'abord les interroger et puis il va devoir choisir bien sûr en fin d'émission. Je vous rappelle qu'on a déjà deux lauréats, celui désigné par Chantal Baudron qui s'appelle 10 to 11, Florent de Stahl, c'est une blockchain B2B, la blockchain pour de vrai dédiée aux entreprises. Le lauréat de Geoffroy de Bec de Lièvre, Displace, elle s'appelle Marie Gastel, vous l'avez découverte la semaine dernière, elle a créé un business de vente d'espaces publicitaires digitaux. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Laurent Boyinval. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour représenter Ever. Vous êtes dans la photographie professionnelle. À côté de vous, c'est Thibaut Castagne. Bonjour Thibaut.
Bonjour Nicolas.
Spark Horizon, c'est du réseau électrique pour les voitures électriques. Et enfin, Jade Francine. Bonjour Jade.
Bonjour.
Elle est venue avec We Maintain. C'est de la maintenance d'ascenseur. Alors d'abord, on va commencer cette émission par Fabrice Marcella. Comment il aborde cette nouvelle saison? Regardez.
Je suis Fabrice Marcella et après une dizaine d'années dans le monde du conseil, j'ai rejoint une grande banque française. Et depuis 2014, je dirige le Village Baïsia Paris, qui est une structure d'accompagnement d'une centaine de startups de tous secteurs. Et j'ai une chance extraordinaire, j'ai toujours voulu monter ma boîte. Et grâce au Village, je suis au quotidien avec des entrepreneurs qui font l'économie d'aujourd'hui et qui sûrement seront les futures licornes françaises de demain. Mon job, c'est de faire en sorte que les inspirations se croisent et que les affaires se fassent. Alors c'est la troisième année que je participe à la BFM Academy. Je suis ravi d'être là encore une fois cette année. Et cette année, j'espère bien gagner la BFM Academy. Pour cela, je suis à la recherche de startups inspirantes, innovantes, avec lesquelles, après la BFM Academy, je pourrais créer des synergies comme je pu le faire les années précédentes. Ce que j'attends comme qualité chez un entrepreneur, c'est tout d'abord une qualité d'écoute afin de bien accueillir les conseils du coach tout au long du concours, mais aussi de la persévérance pour pouvoir convaincre l'ensemble des autres coachs et le public afin de gagner. Et enfin, du calme face à la pression, notamment le jour de la finale, afin d'être sûr de remporter cette saison 13 de la BFM Academy. Ce que je ne veux plus entendre à la fois dans la BFM Academy comme dans mon job au quotidien, c'est « je suis le Uber 2 ». C'est la première plateforme qui va permettre de... Je vais disrupter tel secteur. Et puis enfin, s'il vous plaît, messieurs les entrepreneurs, arrêtez avec le don d'ubiquité. Pour me convaincre, considérez-moi comme un client potentiel. Je serai extrêmement exigeant sur le parcours client comme la qualité de l'exécution.
On va voir si aujourd'hui on a le Uber du Netflix de quelque chose parmi...
Non, c'est interdit.
C'est interdit. Voilà, donc bon, Fabrice Marcella avec nous aujourd'hui qui va devoir départager Ever, Spark Horizon et We Maintain. On y va.
BFM Academy, ils y croient, mais croirez-vous en eux?
Voilà, Ever, donc avec Laurent Boyinval. Je disais qu'il était dans la photographie professionnelle. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. On va commencer avec Laure Closier parce que c'est elle qui a eu le premier contact avec Ever.
Bah oui, Laurent, c'est le candidat qui a l'air timide comme ça, mais qui cache bien son jeu. Alors son business, la photo, il propose des séances photo gratuites, puis vous vend les photos à l'unité. Alors tous les photographes de quartier sont morts. Un type qui se lance dans un artisanat disparu avec vos yeux de grand public, vous y croyez pas une seconde. Sauf que Laurent, faut l'écouter et surtout faut l'écouter par les chiffres. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, 15 000 clients, ticket moyen de 80 euros, croissance de 15% par mois. Vous voyez, vous commencez un tout petit peu à le prendre au sérieux finalement. Alors Laurent, il est même pas photographe, ingénieur travaux publics, il a commencé chez Vinci sur des chantiers du BTP. C'est parce qu'il en avait marre des photos moches avec sa femme qui lance le business. Alors tout le monde veut être beau sur les réseaux sociaux, des sites de rencontres à LinkedIn. Ever veut tuer le selfie. Pour l'instant, c'est plutôt convaincant. Attention, il est face à deux tueurs. Son défi à Laurent, être incisif, convaincant et travailler sa com.
Alors, ce sont des séances photo totalement gratuites. Après, je regarde les photos faites par un professionnel et j'achète celles qui me plaisent à 8 euros la photo. Ça fait effectivement artisanal, mais visiblement, ça cartonne. Alors, c'est parti, Fabrice Marcella. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus sur Ever?
Alors, bonjour Laurent, déjà. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est mieux comprendre votre modèle économique et surtout, ne me dites pas, et on l'a vu, vous allez me disrupter le marché de la photo. Le marché de la photo aujourd'hui, il y a énormément de photographes amateurs, de gens comme moi qui aiment bien se prendre directement avec son smartphone une photo. Mais et vous, comment allez-vous gagner votre vie et quel est votre modèle économique? Comment ça fonctionne? Je crois plus au Père Noël, la photo à 8 euros, je trouve ça vraiment pas très cher. Donc comment tout ça fonctionne, si vous pouvez nous expliquer un petit peu?
On est parti d'un constat simple chez Ever. Tout simplement, aujourd'hui, on fait tous des selfies et nous, on considère que c'est souvent des photos souvenirs. On fait beaucoup de quantité, alors que quand on vient chez Ever, on prend rendez-vous, on se prépare à la séance et on a un photographe 100% dédié pour soi. Donc nous, ce qu'on cherche à faire chez Ever, c'est à démocratiser le portrait et avoir des photos vraiment qui sortent de l'ordinaire pour avoir des photos qui nous plaisent, pour lesquelles on est fier de soi. Donc sur le modèle économique, comme l'a expliqué Nicolas, nous on offre un shooting photo, on offre à la fois les conseils du photographe et le shooting photo, et ensuite vous avez une galerie privée en ligne et vous choisirez les photos qui vous plaisent le plus à 8 euros par photo. Donc la question que vous allez me dire, finalement les clients vont prendre combien de photos? Et tout simplement, les gens vont pas prendre une seule photo, mais un ensemble de photos.
Les gens, c'est qui exactement?
Alors aujourd'hui, les clients, on a un peu de tout. Ça va très bien de l'instagrammeuse de 18 ans, à la femme de 60 ans qui vient pour les sites de rencontres, au cadre sup qui vient dans l'emploi. Et finalement, on a une segmentation assez large qui touche aux sites de rencontres, à l'emploi, les gens qui veulent reprendre confiance en eux, ou tout simplement les couples et familles.
En tout cas, je comprends très bien l'intérêt d'un consommateur tel que moi et tel que tous ceux que vous avez cités. Mais quand je suis photographe, comment je gagne ma vie avec 8 euros la photo? Et si je comprends bien, on n'est pas obligé de les acheter, ces photos, lorsqu'elles ont été prises.
Parce que c'est vous qui rémunérez les photographes après.
C'est nous qui rémunérons.
Il faut bien avoir suffisamment de volume d'affaires pour pouvoir les rémunérer.
Nos photographes sont rémunérés uniquement sur les ventes. Ils sont rémunérés en variable, ce qui permet de tirer la qualité à la hausse.
Il n'y a pas d'obligation d'achat?
Il n'y a pas d'obligation d'achat. Donc vous pouvez venir chez Ever et repartir avec une seule photo à 8 euros. C'est tout l'enjeu du concept. Mais en fait, on sait très bien que les photos vont vous plaire. En sortie, on a un panier moyen à 70 euros. Donc côté photographe, quel est l'intérêt pour eux? En fait, pour comprendre, aujourd'hui, si vous voulez faire un shooting photo sur le marché, ça coûte 100-150 euros avec un photographe. Tout simplement parce que le photographe se déplace pour un seul client. Nous, l'enjeu chez Ever, c'est que quand le photographe se déplace, il va se déplacer pour un minimum de 5 clients. Donc nous, côté technologie, c'est vraiment l'optimisation du planning pour garantir aux photographes un minimum de 5 clients par jour.
Et il gagne sa vie, le photographe? C'est ça ma question.
Ah, est-ce que le photographe gagne sa vie? Ouais. Tout à fait. Le photographe, en moyenne, chez Ever, il gagne 10 000 euros par an. On est en général son premier client et on fait en sorte de stabiliser son revenu. C'est-à-dire que avec Ever, il a un gros apport de revenus et derrière, il va continuer ses activités habituelles de corporate, de mariage.
Alors j'ai fait le calcul, 10 000 euros par an. Ça représente 2083 photos achetées pour chaque photographe. C'est réaliste ou pas, 2083 photos par an achetées?
C'est réaliste parce que nos photographes vont généralement, c'est l'équivalent de faire des shootings le samedi et le dimanche après-midi. 4-5 shootings le samedi et dimanche après-midi sur 6 à 8 mois de l'année. Donc c'est vraiment une activité récurrente.
Comme chaque semaine, on a également des questions de start-upers qui ont été enregistrées vous concernant. On va écouter celle d'Étienne Janvrin. Il est fondateur de Spicus et de l'apprentissage des langues en ligne. Regardez.
En regardant ton site internet, j'ai trouvé ton positionnement très clair, mais sur un seul produit. Ne penses-tu pas que diversifier ton offre, en proposant notamment des albums photos ou d'autres dérivés de la photo, peut être une stratégie payante?
Effectivement, les portraits pour LinkedIn, les portraits pour les sites de rencontres, mais la photo, le champ est super vaste. J'imagine que vous avez pensé au coup d'après, d'après et d'après.
Alors, on a pensé au coup d'après, mais la première étape, c'est vraiment de démocratiser le portrait. Et c'est pour ça qu'on commence vraiment par cet aspect-là. Donc, c'est pour ça qu'on est orienté très B2C aujourd'hui. Donc, on commence dès aujourd'hui à regarder le B2B. On commence par exemple avec des distributeurs, que ce soit dans l'emploi ou dans les sites de rencontres. On peut annoncer, par exemple, qu'on a fait avec une distribution avec Viadeo, avec Cadre Emploi, où c'est eux qui vont distribuer directement des shootings photos auprès de leurs utilisateurs.
Fabrice.
Qui paye la photo dans ce cas-là? On est en B2B2C.
Quand on est en B2B2C, c'est-à-dire qu'on va offrir à Cadre Emploi, par exemple, un shooting photo plus une photo qui est offerte, c'est à notre charge parce que c'est notre coût d'acquisition et on préfère le donner à Cadre Emploi plutôt que de le donner à Facebook ou à Google.
Alors moi, je me suis aussi posé une autre question. Toutes les photos que vous réalisez, elles sont à l'extérieur et jamais en studio. Pourquoi?
Tout simplement parce que c'est la demande des clients. On fait du studio depuis 30 ans. Tous les studios ont fermé les uns après les autres parce qu'aujourd'hui, la demande, c'est vraiment la photo, ce qu'on appelle lifestyle. C'est la photo naturelle en extérieur. Et finalement, quand vous êtes en studio, vous êtes chez le photographe. Et quand vous êtes en extérieur, c'est vraiment le photographe qui va prendre soin de vous, qui va vraiment être un moment 100% dédié rien que pour vous.
Comment recrutez-vous les photographes?
Alors, on a une sélection très forte sur les photographes. Il y a seulement 2 photographes sur 10 qui rentrent chez nous, tout simplement parce qu'on cherche les meilleurs photographes de portrait, parce qu'ensuite, ils vont être rémunérés sur les ventes en sortie. Donc, on fait une sélection sur le portfolio, le matériel, on s'assure qu'ils soient professionnels. Et ensuite, ils sont systématiquement formés chez nous pour expliquer c'est quoi la direction artistique d'Ever sur le portrait naturel.
Allez, peut-être une
dernière question.
Une dernière question. quelle est la commission que vous prenez sur la vente d'une photo?
Donc on prend 40% de commission et on reverse 60% aux photographes. Alors à quoi ça correspond vraiment ces 40%?
Parce que la moyenne dans le secteur, enfin pas dans le secteur, en tout cas sur les plateformes de mise en relation, on est plutôt sur 20 à 30%, non? Est-ce que 40% c'est...
Alors on n'est pas une plateforme de mise en relation justement, on est plutôt sur un modèle type agence. D'accord. On va vraiment s'occuper de tout pour le photographe. Donc on va s'occuper de trouver les clients, d'optimiser les plannings, de la vente en ligne et de la facturation. Et on cherche à ce que le photographe se concentre sur son cœur de métier. Il arrive, il photographie les clients, il envoie les photos et nous on s'occupe de tout le reste.
Voilà, donc c'est Laurent Boyaval avec Ever, notre premier candidat cette semaine avec ce business model de Selfie Killer. On va faire tout de suite la connaissance de notre deuxième candidat. Il s'appelle Thibaut Castagne. Il nous présente aujourd'hui Spark Horizon. Et c'est à Saint-Étienne que Laure Closier a fait la connaissance de Thibaut.
Et oui, Thibaut Castagne, il est ancien gestionnaire de portefeuille chez HSBC. Il s'est reconverti en start-upper. Son idole, Tony Stark, Iron Man pour les connaisseurs. Alors pourquoi? Parce qu'il cherche une source d'énergie inépuisable. Bon alors Tony Stark, le projet, c'est quand même assez semé d'embûches. Il rencontre des méchants. Pour Thibaut Castagne, c'est peut-être moins compliqué. Mais quand même, Spark Horizon installe des bornes de recharge gratuites pour les véhicules électriques. Le modèle tient à la publicité. Ses concurrents, JC Decaux d'un côté, Bolloré de l'autre, mais ça franchement, ça lui fait pas peur du tout. Au casting, Thibaut, il paraît assez sûr de lui. On hésite presque à lui reposer des questions quand on n'a rien compris. Il donne l'image toujours entre deux avions. On a eu du mal à le joindre, même pour lui dire qu'il était sélectionné. C'est pour vous dire. Il nous a quand même remercié. Grâce au casting, il a vu ses parents à Tournus, ce qui est quand même sympa. Ça faisait, à mon avis, longtemps qu'il les avait pas vus. Son défi, c'est tout le contraire d'Ever, être pas trop incisif, pas trop sûr de lui, face à Fabrice qui, on le sait, adore se placer dans le rôle du client.
Vous allez installer des bornes électriques totalement gratuites, financées par un modèle de publicité pour tous les gens qui ont des voitures électriques partout. C'est ça, hein?
C'est effectivement, c'est exact. Donc on est effectivement dans la charge de destination, donc c'est-à-dire là où les gens effectivement passent du temps, donc dans leur leur vie quotidienne, dans leur vie hebdomadaire, donc au centre commercial, dans les parcs de loisirs, dans les centres-villes. Donc le modèle de Spark Horizon, c'est effectivement un modèle de concession publicitaire. Donc on travaille effectivement avec des foncières commerciales ou des collectivités locales où on apporte effectivement une solution gratuite et clé en main pour les foncières commerciales et nous offrons donc effectivement une recharge gratuite aux utilisateurs, donc à la fois pour les attirer dans les centres commerciaux mais aussi pour améliorer l'expérience shopping. Ce qu'il faut savoir, le problème fondamental au niveau de la mobilité électrique, c'est le problème de la poule et de l'œuf, donc à savoir au niveau de la rémunération des infrastructures de charge quand il y a très peu de voitures électriques en circulation.
Fabrice, Marcella. Oui.
Bonjour Thibaut. Enfin, je rebondis sur ce que disait Laure. Effectivement, on a toujours l'impression que tu es partout dans le monde et d'ailleurs tu brouilles les pistes, hein, parce que pour t'appeler, faut que je t'appelle sur un numéro anglais, mais en fait tu vis en France. Enfin, c'était un petit peu compliqué effectivement de comprendre tout ça. En tout cas, quand vous décrivez les objectifs de Spark Horizon, vous parlez de étendre l'utilisation des véhicules. Alors, vous pouvez m'expliquer un petit peu comment, parce que finalement, c'est pas véritablement votre métier, ça.
Bah écoutez, en fait, comme je viens de le dire, le problème effectivement de l'infrastructure de charge aujourd'hui, c'est le business model. Donc aujourd'hui, c'est
on gagne pas d'argent aujourd'hui lorsqu'on...
Aujourd'hui, toute l'infrastructure de charge est dépendante du nombre de voitures électriques qui se pluguent. Ouais. Il y a une corrélation effectivement entre le nombre de bornes donc effectivement dans la voirie et le nombre de voitures de charge sur les routes. Le but de Spark Horizon, c'est de démocratiser l'accès aux voitures électriques, et donc c'est-à-dire de lutter contre l'anxiété de charge. Donc d'offrir effectivement une charge...
L'anxiété de charge, c'est j'ai ma voiture, mais j'ai peur de ne pas pouvoir faire le plein d'électricité. Hein,
c'est exactement. Ça. Alors, faut savoir que plus des deux tiers des Européens aujourd'hui n'ont pas accès à un parking privé. Donc, c'est où est-ce que je peux me charger, effectivement, quand je ne peux pas charger à la maison ou je ne peux pas me charger au travail.
Et qu'est-ce que je fais en attendant?
Donc, derrière nous, effectivement, Spark Horizon, on travaille à la fois sur une problématique de régie publicitaire. Donc, comment effectivement travailler avec des marques partenaires responsables et innovantes pour sponsoriser, en fait, cette infrastructure de charge, mais aussi en trouvant effectivement des besoins aux utilisateurs pour qu'ils, par exemple, fassent leurs courses pendant qu'ils font leur charge.
D'accord, ils consomment finalement en faisant des courses plutôt que de mettre de l'argent pour recharger leur voiture.
Exactement. Donc c'est un produit d'appel dans les zones de chalandise.
Mais dans ce modèle, vous gagnez votre vie? Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que sur le modèle traditionnel, seuls les installateurs gagnent leur vie, pas les exploitants de stations de recharge.
C'est exact. Donc aujourd'hui, les seules personnes qui gagnent leur vie, effectivement, les seules sociétés qui gagnent leur vie dans la mobilité électrique sont celles qui vendent les bornes de charge. Donc les exploitants, effectivement, aujourd'hui, personne ne fait de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a un manquement de bornes en France et en Europe. Donc derrière, effectivement, nous, on a trouvé un autre business model donc qui était innovant sur la partie du sponsoring de marque, en effectivement en trouvant de nouveaux relais de monétisation, en faisant un partenariat avec des marques qui souhaitent aussi communiquer vers cette audience nouvelle.
Est-ce que le marché est mature aujourd'hui pour accueillir votre solution ?
Alors le marché du digital, donc effectivement Display, c'est une autre start-up qui est là-dessus.
T'as des synergies d'ailleurs à avoir avec Display.
Ouais, exactement. Donc c'est un marché qui effectivement sur la publicité extérieure qui est en plein renouvellement. Donc c'est à voir, on était sur du statique, on arrive sur du digital. Il y a toute une offre de logiciels qui vont avec. Et d'ailleurs sur la partie mobilité électrique aussi. Une industrie complètement fragmentée, très peu de règles, de normes. Donc effectivement, on est sur deux industries qui sont en mouvement constant. Et c'est la raison pour laquelle un pure player comme nous peut vraiment effectivement s'insérer.
Alors question de start-upper, il s'appelle Guillaume Tassetto, il est président fondateur de Kairos, il dématérialise les solutions de formation. Il a une question sur les deux métiers qui sont les vôtres.
Vous êtes à la fois un prestataire technique de déploiement de bornes électriques et une régie publicitaire. Est-ce que l'écart n'est pas trop grand ?
Eh oui, on fabrique des bornes et en même temps, on a un business d'agence média. C'est pas évident de s'y retrouver.
Alors effectivement, c'est aussi ce qui fait notre force. Donc la flexibilité d'un pure player comme nous, c'est d'avoir un seul produit, effectivement, sur la mobilité électrique en mouvement constant et sur la publicité digitale, mais aussi de regrouper les deux. Donc l'intérêt, effectivement, quand on déploie un nouveau média, un nouveau réseau publicitaire, c'est d'avoir des données d'usage, des publicitaires pour avoir un média à haute valeur ajoutée. Donc le fait qu'on ait une intégration verticale, ça nous permet d'avoir des données, effectivement, très intéressantes, à la fois pour donner une expérience média bien meilleure, et à la fois aussi pour avoir une valeur ajoutée bien plus grande sur la mobilité électrique.
Alors qui sont vos concurrents ?
Alors nos concurrents, nous on se place effectivement sur le business de la mobilité électrique, donc ce sont des gens comme Engie, comme EDF, comme effectivement d'autres personnes qui sont NewMotion donc aux Pays-Bas ou d'autres acteurs aussi en Allemagne.
Et les JC Deco et autres, ce sont pas des concurrents ?
Alors effectivement, ils peuvent peut-être devenir concurrents. Ouais. Donc effectivement, ça peut devenir effectivement un concurrent si y a une compréhension effectivement totale d'un marché qui est complètement incertain, qui est celui de la mobilité électrique et qui est complètement fragmenté.
Donc vous pensez qu'ils n'y comprennent rien ?
Oui. C'est...
vous avez dit que rien ne faisait peur.
Je pense que non, effectivement, je pense non. Qu'ils peuvent beaucoup comprendre sur ce qu'on fait. Je dis qu'il y a beaucoup de risques effectivement d'aller dans ce business.
Non, mais c'est marrant parce que vous citez comme principaux concurrents des fournisseurs d'électricité.
Oui.
Quoi.
Ouais.
Bah aujourd'hui, ceux qui font la mobilité électrique sont les fournisseurs d'électricité.
Ils sont plus des sous-traitants pour vous, ça, non ? Ou des fournisseurs, en tout cas, non ? De vos solutions, non ?
Les exploitants, effectivement, de bornes de charge sont aujourd'hui les fournisseurs d'électricité, mais aussi des pure players qui sont des concessionnaires privés, effectivement, qui sont plutôt nos concurrents, plutôt que la publicité extérieure. Nous, on travaille sur un sponsoring de marque, donc c'est-à-dire que c'est en fait un relais, finalement, de monétisation plutôt qu'une fin en elle-même.
Alors, vous citiez comme un des clients qui pouvait être intéressé par vos solutions, les centres commerciaux notamment, mais j'ai le sentiment qu'il y en a déjà certains d'entre eux qui ont passé le pas, non ? Qui ont mis en place des bornes électriques pour permettre à leurs clients de rester plus longtemps dans leur centre, non ?
Tout à fait. Donc, on commence à avoir un déploiement donc, sur certaines zones commerciales. Cela dit, donc, effectivement, il y a une norme maintenant européenne qui dit que 10% des parkings doivent être prééquipés d'ici à 2020.
2020, d'accord.
D'ici à 2020. Ça veut aussi dire que peut-être d'ici à 2020, on aura 10% qui seront équipés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en Europe, il y a 5 millions de places de parking retail commercial, donc plus de 500 000 bornes à installer. Donc le marché est énorme.
Et vous êtes présent dans quel pays actuellement ?
Alors on est présent en France et en Suisse. Donc on a commencé en Suisse donc sur des projets pilotes donc dans la ville de Zurich. Et aujourd'hui donc on travaille avec des collectivités locales donc dans la région parisienne, mais aussi avec des grosses chaînes de supermarchés en France. Et nous venons d'ouvrir un bureau en Australie.
À et Thibaut Castagne, dernière question. Vous attendez 400 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Vous imaginez 2,5 millions l'an prochain. Qu'est-ce qui va se passer entre 2018 et 2019 pour qu'il y ait cette bascule incroyable sur de l'infrastructure lourde, enfin sur un marché qui effectivement n'est pas encore à maturité ?
Alors, effectivement, le marché n'est pas à maturité. Cela dit, il y a une grosse demande, à la fois des pouvoirs publics, mais aussi des foncières commerciales, justement pour équiper les zones de voirie, mais aussi les parkings. Qu'est-ce qui va se passer? Des relais de financement qui sont effectivement intéressants. Il y a beaucoup d'argent en circulation en ce moment en France et en Europe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cas d'investissement. Il n'y a pas de cas d'investissement parce qu'il n'y a pas de business model intéressant. Donc, nous, on travaille effectivement avec des fonds d'infrastructure qui vont, en leur proposant effectivement un business model intéressant et un profit, donc du coup, sur ce business model pour effectivement financer l'infrastructure de charge.
Thibaut Castagne avec Spark Horizon et les bornes de recharge gratuites pour les véhicules électriques. On va faire la connaissance plus précisément de Jade Francine avec WeMaintain. Je disais qu'elle était dans la maintenance d'ascenseurs, mais vous allez voir, ce n'est qu'une formule d'appel. On commence avec Laure Clausier.
Jade Francine, effectivement, elle s'attaque au marché des ascenseurs. Alors, pas le marché français, le marché mondial, 35 milliards de dollars pour seulement 4 acteurs qui, selon elle, font mal leur boulot. Et c'est vrai que quand vous écoutez Jade vous raconter que d'un côté, les clients sont mécontents, de l'autre, les techniciens sont mal payés et que les marges sont colossales, bah vous aussi, vous avez envie d'ubériser le marché. Alors Jade, c'est une machine, elle laisse rien passer. On a dit sur BFM Business qu'elle se plaçait sur la réparation d'ascenseurs. Elle vous envoie des mails à 23h pour vous dire c'est réparation et maintenance et ça change tout. Et elle a raison, pour se lancer, aucun détail ne doit faire mal comprendre votre positionnement client. Jade, elle plaisante pas, il y a des gens qui ont fait des masters de droit, d'autres qui ont fait des masters de chinois. Elle a fait un master de droit chinois. Et ça, franchement, ça nous épate. Le marché chinois, d'ailleurs, c'est sa cible. Les problématiques d'ascenseurs, ils sont colossales. Son défi, nous convaincre que tous les syndics de copropriété vont abandonner Otis pour un contrat avec une start-up inconnue. Et ça, franchement, on a du mal à y croire.
Alors, comme c'est pas elle qui le dira, ce business, ça ressemble quand même à un business qui a envie de bousculer quelque chose qui ressemble vaguement à un petit monopole quand on cite ces quatre géants mondiaux qui, effectivement, aujourd'hui, embauchent les gens qui font de la maintenance d'ascenseurs et que ces gens sont peut-être ravis d'avoir une nouvelle source de revenus. Alors, Fabrice Marcella.
Bonjour Jade.
Bonjour.
Bon, déjà, c'est quoi ce nom WeMaintain? J'ai du mal à le dire moi. Enfin, c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que?
Alors WeMaintain en français c'est nous maintenons, mais on a un nom anglais et on parle de maintenance. On s'appelle pas Super Ascenseur parce qu'en fait on commence par l'ascenseur, mais ensuite on veut s'étendre à tous les secteurs de maintenance réglementée dans le bâtiment. Donc il fallait bien un nom qui reflète l'ambition internationale, la maintenance en général. Donc WeMaintain, et vu qu'on est les premiers.
L'ascenseur c'est le début. Après c'est quoi? C'est le chauffage, la clim, les escaliers.
Exactement.
Le ménage.
C'est tout ce qui est maintenant. Maintenance réglementée.
Non, maintenant. City management, non, de façon générale ou non?
C'est vraiment maintenance réglementée où on a besoin de compétences techniques.
En tout cas, ce qui m'a surpris dans votre activité, c'est que je pensais que ce marché-là de la maintenance des ascenseurs est extrêmement réglementé, c'est sûrement le cas, et qu'on devait obligatoirement prendre l'installateur, en tout cas de la marque de l'ascenseur qu'on a installé. Et j'ai le sentiment que c'est pas le cas.
Ce n'est absolument pas le cas, et c'est souvent...
C'est ce qu'on veut nous faire croire, en fait.
En fait, c'est l'impression qu'on a, mais le parc est très brassé en France. Également, tous les techniciens sont multimarques. Et donc, vous n'avez pas besoin de passer par le constructeur pour faire la maintenance. Donc, c'est ouvert, c'est réglementé, mais c'est ouvert.
Alors, j'imagine qu'on ne s'improvise pas technicien de maintenance. Vous avez des références dans le... sur ce marché, enfin,
j'imagine,
non?
Oui, oui. Alors, chez nous, on a en effet une équipe assez technique. On a plusieurs personnes qui viennent notamment du monde de l'ascenseur. On n'est pas une start-up où tout le monde a 22 ans, hein. C'est, la moyenne d'âge, c'est plus 40 ans chez nous, avec une forte compétence technique, et les techniciens, c'est pareil. Quand on les sélectionne, ils ont des critères très, très, très drastiques, en fait, pour pouvoir accéder au service de la plateforme.
Alors, quand vous dites quand on les sélectionne, ça donne le sentiment qu'il y a beaucoup de techniciens de maintenance qui viennent vers vous pour rejoindre WeMaintain. C'est le cas?
En effet, il y a énormément de techniciens qui viennent, parce que finalement, il y a très peu d'options pour eux dans leur carrière. Donc, généralement, ce qui se passe pour un technicien, c'est qu'il va bosser chez un des quatre gros, ensuite passer dans une petite boîte, en ayant des perspectives assez limitées. Nous, ce qu'on leur dit, c'est de venir chez nous, se mettre à leur compte. On les accompagne sur toutes les étapes. Et également, un technicien de maintenance d'ascenseur, il fait de l'ascenseur maintenant. Ce que lui, il a envie, c'est de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et c'est également
ça veut dire que le technicien qui bosse chez Schindler, par exemple, il va peut-être carrément quitter Schindler pour se mettre totalement à son compte, ou alors il fait du WeMaintain pendant des heures disponibles.
En effet, c'est absolument interdit de faire du WeMaintain pendant les heures disponibles.
Ah, c'est interdit de faire du WeMaintain pendant les heures disponibles quand on est salarié d'une grande maison.
En effet, enfin, ils ont
quel statut? Oui, ce sont des auto-entrepreneurs, c'est quoi?
Ils montent leur société. Hein. Donc ils posent leur démission, hein, c'est ça. Ils démissionnent, ils montent leur société, on les aide sur l'assurance, notamment avec AXA, sur tous les aspects, pour qu'ensuite ils deviennent leur propre
entrepreneur. On marque une pause, on se retrouve dans un instant dans cette BFM Academy avec les questions-réponses autour de We Maintain et de Jade Francine.
BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy saison 13 avec Nicolas Dose.
Nous revoilà donc BFM Academy avec Fabrice Marcella qui va devoir choisir cette semaine entre Ever avec Laurent Boyenval, les séances de photos offertes par un professionnel et on paye 8 euros chaque photo que l'on sélectionne, Spark Horizon, Thibaut Castagne, les bornes de recharge gratuites pour les véhicules électriques et on continue donc avec Jade Francine qui nous présente We Maintain, c'est la maintenance des ascenseurs, la première plateforme numérique d'ascensoriste. Je suis un professionnel de l'ascenseur, je peux travailler pour We Maintain et aller dépanner, entretenir les ascenseurs un peu partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai appris en préparant l'émission que l'ascenseur, c'était le moyen de transport le plus utilisé du monde.
En effet.
C'est quand même dingue.
Oui,
Fabrice, on a encore 4 minutes de questions avec Jade.
Mais restera-t-il toujours aussi sûr en passant par des techniciens de We Maintain? Ils seront formés, ces techniciens. Comment on garantit la sécurité de nos ascenseurs?
Ah oui, l'assurance.
En passant par
We Maintain.
Oui.
Voilà. Bon, déjà, comme je l'ai expliqué, tous les techniciens qui sont sur la plateforme ont les compétences et ce sont les mêmes techniciens.
Comment vous le vérifiez ça? C'est les diplômes, il y a des formations,
oui,
il y a...
En effet, donc c'est les diplômes, les habilitations, on les teste évidemment. Ils se sélectionnent également entre eux, il y a tout un système
de cooptation,
un système de parrainage. Donc ce n'est pas n'importe qui peut fournir ses services sur la plateforme. Et l'autre point, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'à l'heure actuelle, ce sont les mêmes personnes qui sont chez les gros ascensoristes. C'est un peu comme une équipe de foot, quoi. Un club de foot, vous enlevez les bons joueurs, vous prenez les bons techniciens, et c'est eux qui auront des soucis pour faire la maintenance, à mon avis. Voilà. Et l'autre point, c'est que, je le disais, toutes les prestations sont garanties, je le répète, par une grosse assurance qui est AXA, qui a accepté de jouer le jeu avec nous parce que justement, on peut fournir toutes ces garanties sur les techniciens.
J'ai adoré quand vous dites qu'une phrase qui a dominé vos choix de business, c'était la phrase de Jeff Bezos, ouais. Leurs marges sont nos opportunités. Les marges de qui? Des quatre gros. Et justement, à ce sujet-là, Grégory Clément, dirigeant de Bagel Corner, a une question pour vous.
Tu rentres sur un secteur qui est quasiment dominé par quatre acteurs. Quelle est ta relation avec eux? Et comment vois-tu les choses sur le long terme?
Excellente! Très bonne question!
Très bonne question!
Je pense qu'ils nous adorent. Non, très sincèrement, on n'a pas une relation spécialement apaisée. Enfin, en tout cas, ils regardent en effet ce qui se passe. La relation sur le long terme, nous, évidemment, c'est de remplacer le modèle qui existe à l'heure actuelle, hein, très sincèrement. Donc on n'aura jamais des deux relations amicales avec eux.
Quels sont les avantages de passer par vous plutôt que... C'est un avantage de prix, c'est un avantage de satisfaction client. Quels sont les avantages?
Les avantages, c'est vraiment le service, la qualité de service. Ouais. Parce que les demandes clients à l'heure actuelle, c'est besoin de fiabilité. Et donc nous, quand vous avez un technicien qui est indépendant, c'est son chiffre d'affaires, il est engagé également la démarche de chaque ascenseur connaît son ascenseur, en fait, l'ascenseur dans l'immeuble. Il est dédié à l'ascenseur, c'est pas une équipe qui tourne. L'autre avantage, c'est la réactivité, parce que le technicien va choisir sa zone d'intervention, donc du coup, c'est de la proximité, c'est des temps d'intervention beaucoup plus courts. Et enfin, c'est la visibilité, parce que à l'heure actuelle, vous signez pour un contrat de maintenance, vous ne savez pas ce qui va se passer sur l'ascenseur, vous ne savez pas les travaux qui vont arriver hors contrat, et nous, en fait, on donne toutes ces informations, on prévient le client de ce qui va se passer sur l'ascenseur.
Quels sont les ratios dans le secteur entre nombre d'ascenseurs versus nombre de techniciens et comment ça se passe chez vous?
Alors, dans l'industrie, chez les gros, on est à 120-150 ascenseurs par technicien, donc à avoir toutes les 6 semaines, plus les pannes, plus toutes les urgences qu'il peut y avoir sur un ascenseur. Chez nous, c'est moitié moins, avec une augmentation de salaire assez conséquente.
Dernière question, Fabrice.
Allez, combien de techniciens aujourd'hui?
10 techniciens.
10 techniciens,
et ça suffit pour vraiment...
Combien de clients?
On travaille avec une vingtaine de clients, donc très très large. Ça va du résidentiel avec Foncia, le groupe Pichet, également tertiaire, notamment les assurances, AXA, H2R, la Mondiale. On maintient tout leur siège social. Voilà, donc c'est très divers.
Voilà, les clients sont les syndics, ce sont les offices HLM, les foncières, et puis tout est bordé par AXA. On parlait d'assurance tout à l'heure, vous êtes sous contrat AXA, je crois. Hein,
exactement.
En termes d'assurance. Bien, on est arrivé à un moment charnière de cette émission, Fabrice Marcella, puisqu'on a donc trois créateurs d'entreprises. Il n'en restera qu'un dans une petite quinzaine de minutes, mais auparavant, c'est la mouche du coach.
BFM Academy, la mouche du coach.
La mouche du coach de Laurent Boyenval avec Ever, les séances de photos offertes par un professionnel. Et je choisis les photos que je veux. Et chaque photo sélectionnée est payée 8 euros. Mais je passe une heure quand même avec un pro qui va me shooter dans tous les sens pour avoir les plus belles photos de mon existence en termes de portrait. Mouche du coach, Fabrice Marcella.
Alors Laurent, ce que j'ai aimé déjà, c'est votre dynamique de croissance incroyable. Je rappelle, hein, 1,5 million de chiffre d'affaires 2017. Vos prévisions, lorsqu'on a préparé cette émission, vous étiez à 3 millions sur 2018. L'idée m'a séduit aussi. Et puis tout le storytelling qui va autour lorsque vous présentez votre entreprise. Et bien entendu, la qualité des photos à un prix extrêmement raisonnable. Les moins, c'est un grand mot, mais j'ai le sentiment que le risque, en tout cas dans votre modèle, c'est d'attirer des passionnés, d'attirer des étudiants et un peu moins les pros. Mais je vous laisserai me répondre là-dessus.
Ensuite, les photographes pros.
Ensuite, bah, vous êtes une plateforme néanmoins, un peu à la mode Uber et toutes les autres, qui peut générer, mais je vous laisserai me répondre aussi là-dessus, qui peut générer une forme d'insatisfaction des professionnels qui rejoignent votre plateforme. Donc ça, c'est un risque, en tout cas sur votre modèle, comme c'est le risque aujourd'hui sur tout ce type de tout ce fonctionnement-là. Troisième élément, c'est vous n'êtes pas dans du business récurrent. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris ma photo, je vais pas venir tous les jours vous voir, même si je m'aime bien, mais pas tous les jours venir vous voir pour reprendre une photo. Et donc voilà, comment générer finalement des ventes croisées ou en tout cas faire revenir le client sur votre site, ça me semble essentiel en tout cas pour continuer à vous développer. Ensuite, bon, je suis allé me balader, j'aime bien faire ça sur les sites de chacun, j'ai trouvé des photos exceptionnelles sur votre site, sauf une. C'est la photo de l'équipe. Je pense qu'il faut la retravailler parce qu'elle quand même, elle porte en tout cas l'image de votre boîte. Voilà, en tout cas les différents points que je souhaitais partager avec vous, Laurent.
Alors, que des photographes pros ou alors je suis passionné de photos et finalement je peux devenir indépendant chez Ever?
Alors, les passionnés ne sont pas du tout acceptés. On retient vraiment que les photographes professionnels.
Qu'est-ce qui fait qu'un photographe est professionnel? Son track record, sa carte, son historique, son...
Alors, le matériel, son statut, sa qualité des photos. Et c'est vraiment ça qu'on va sélectionner aujourd'hui. Ils sont sélectionnés vraiment, c'est 1 sur 10 qui rentre. Parce que le constat, c'est qu'il y a trop de photographes sur le marché. Donc nous, on vient vraiment structurer ce marché-là. Et quel est vraiment l'intérêt pour ces photographes professionnels? Aujourd'hui, on a un turnover très faible. On a tous nos photographes qui nous suivent depuis le début de l'aventure sans rester. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils gagnent bien leur vie. Et nous, on considère que c'est vraiment par là que ça va marcher. C'est la fidélisation monétaire qu'on les accompagne dans la durée.
D'accord. Alors justement, l'autre point de Fabrice, vous savez, l'histoire de la requalification en contrat de travail. Je suis finalement indépendant, mais totalement dépendant d'Ever. Je vais commencer à me rebeller, alors, comme on l'a vu ailleurs.
Nous, on tient vraiment à l'indépendance de nos photographes. Ça veut dire que nous, on s'occupe de toutes les fonctions support. Eux vont s'occuper de la relation client, de la prise de vue, sur laquelle ils vont vraiment être entièrement libres. Et nous, on ne va pas fixer un prix fixe, puisqu'on a un prix unitaire à 8 euros. Mais chaque photographe va avoir des paniers différents selon les clients, selon sa capacité artistique, selon tout simplement son métier. Et ça, c'est lui qui est entièrement libre. Entre nos photographes, nous n'avons pas les mêmes revenus.
D'accord. Business non récurrent. C'est vrai qu'on ne va pas aller se faire tirer le portrait pour LinkedIn ou un site de rencontre tous les 4 matins.
Alors aujourd'hui, effectivement, c'est le premier constat. Aujourd'hui, tous nos shootings se font sur un seul lieu. Donc effectivement, les gens vont pas revenir tous les 3 mois. Et c'est pour ça qu'on a lancé des nouvelles opérations en changeant de lieu. Par exemple, pour la Saint-Valentin, on a fait ça à Montmartre. Pour le printemps, on a fait ça sur le canal Saint-Martin. Et tout simplement, les clients reviennent parce que ce qu'ils recherchent, c'est avant tout l'expérience, un moment dédié avec un photographe. Et finalement, après, on a aussi également des belles photos. Et en intention, c'est très fort. On a 50% de nos clients qui déclarent vouloir revenir tous les 3 mois.
Et enfin, c'est super d'avoir des belles photos sur le site, mais si la photo de l'équipe d'Ever est complètement pourrie, c'est vrai que ça la fout mal.
Ah, c'est les cordonniers les plus mal chaussés.
Bien, on va continuer cette mouche du coach, Fabrice Marcella, avec notre deuxième candidat. Il s'appelle Thibaut Castagne, Spark Horizon. C'est borne de recharge gratuite donc pour les véhicules électriques. Il est à la fois opérateur d'infrastructure et agence média pour offrir la gratuité et finalement offrir des relais de développement commerciaux. C'est un business à plusieurs bandes. On y va, Fabrice.
Thibaut, Alors déjà, ce que je trouve remarquable, c'est l'apport d'agilité que vous avez dans un secteur qui n'est pas du tout agile. Donc j'imagine que ça doit bousculer quand même un petit peu les principaux acteurs du secteur. Ce que je trouve génial aussi, c'est cette idée que de transformer ce temps d'attente nécessaire à la recharge, et qui est toujours extrêmement compliqué finalement quand on est un utilisateur de ce type de véhicule, en temps utile. Donc et puis... Intéressant aussi, finalement, cette synergie que vous souhaitez avoir entre deux mondes qui n'ont pas de lien a priori, et vous créez ce lien entre celui de la distribution d'énergie et celui des réseaux publicitaires. Alors les moins, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais cette idée d'avoir une techno qui est peu connue, difficile à adopter peut-être dans un premier temps, et donc vous allez peut-être vous épuiser à éduquer le marché, au risque finalement aussi de l'éduquer pour vos futurs concurrents. Donc là, il va falloir être extrêmement rapide, en tout cas pour vous imposer et faire adopter votre solution. Ensuite, sur ce secteur, je vois que les investissements aujourd'hui en termes d'infrastructures sont assez faibles. Et comment allez-vous réussir, vous, à capter cet investissement pour justement vous permettre de vous développer? Et enfin, à titre perso, j'ai pas envie d'être dans un monde où en permanence on me demande finalement un peu de mon attention sur des spots publicitaires. Je l'ai déjà beaucoup sur le net, je l'ai déjà beaucoup dans la rue. Si en plus quand je vais garer ma bagnole, je suis inondé de spots, voilà, ça, j'ai pas envie forcément de ce monde-là.
Bon, alors effectivement, c'est une techno un peu neuve. Il faut évangéliser le marché, c'est vrai, Thibaut. Et en fait, là, vous essuyez les plâtres pour tous ceux qui pourraient à l'avenir profiter du fait que quelqu'un est passé avant pour expliquer comment ça marche, comment ça va marcher, le business model, là, ce que vous avez fait avec nous pendant une petite dizaine des minutes en début d'émission.
Alors, tout à fait. Alors, je pense que le premier point, c'est qu'on n'est pas les premiers. Hein. Il y a des acteurs, effectivement, qui ont commencé il y a, je dirais, 5, 6, 7 ans. C'est un premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a un business d'immobilier. Donc, une fois que les spots immobiliers sont pris, ils sont pris. Donc, on peut pas les renouveler. Ce sont des baux de 10 ans, de 15 ans, de plus. Donc, une fois que vous avez une métropole, une fois que vous avez une foncière, une fois que vous avez des contrats d'exclusivité, c'est terminé pour la suite. Donc, effectivement, il y a un avantage exceptionnel à être le premier, effectivement, sur ce marché.
D'accord. La question des investissements. Les investissements sont... vous avez expliqué que le business model crevait pas les yeux aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez inventé, le vôtre. Et donc, les investissements sont quand même pas encore absolument colossaux. Il faut pourtant réussir à les capter. Donc, comment vous vous y prenez?
Tout d'abord, les investissements sont pas colossaux parce que le business model, le business model qu'on a maintenant, sont des business models qui ne rapportent pas d'argent, qui ne sont pas profitables.
A priori, quand ça rapporte pas d'argent, il y a pas grand monde pour y aller.
Voilà, exactement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dépense de l'Union européenne, une dépense des pouvoirs publics. Et effectivement, nous derrière, on essaie effectivement de créer une économie circulaire où on travaille avec des marques, donc des prestataires privés, des partenaires privés qui financent donc au lieu du contribuable finalement les infrastructures de charge. Donc ici, effectivement, on a un cas d'investissement qui est un cas d'investissement publicitaire. Donc effectivement, où on se lie effectivement à une audience, à un parc immobilier, qui effectivement nous permet d'être rentable entre 10 et 15 mois par rapport à toute infrastructure de charge maintenant qui effectivement n'est pas rentable sur toute la vie de l'infrastructure.
Et la dernière remarque de Fabrice, il disait remarque personnelle, mais... Beaucoup de gens marrent de la pub. C'est vrai que la pub, il y a un moment, c'est saturation absolue. Et là, c'est quand même là-dessus que vous avez fait reposer l'essentiel de l'équilibre de l'histoire.
Alors là-dessus, je pense qu'il y a trois points. Il y a la pub au sens pollution du terme et il y a la pub au sens contenu du terme. Donc si c'est un contenu intéressant, effectivement, il y a un intérêt des audiences et des personnes qui viennent se charger. Deux, malheureusement, et on est tous sur le plateau, à peut-être utiliser Facebook, peut-être utiliser Google, peut-être utiliser Instagram.
Non, personne.
Et derrière, effectivement, ce sont des services publics, services privés aussi, qui sont effectivement sponsorisés par la publicité. Donc derrière, effectivement, si c'est une publicité qui a un intérêt pour le commun, donc pour le bien commun, et en l'occurrence, effectivement, la pollution de l'air est toujours la première cause de mortalité dans le monde, donc effectivement il y a un vrai intérêt à accélérer la mobilité électrique. Si on peut le faire sur une économie circulaire où on travaille avec des partenaires, justement des partenaires marques qui effectivement s'engagent aux côtés des communautés locales pour investir dans ces infrastructures de charge, on reboucle la boucle.
Voilà, c'est Thibaut Castagne donc avec Spark Horizon et on termine avec la troisième mouche du coach, celle de Jade Francine, We Maintain, la maintenance des ascenseurs où elle a créé une fabuleuse place de marché pour essayer de draguer un maximum d'ascensoristes professionnels qui en ont marre de se faire sauvagement exploiter. Allons-y Fabrice.
En tout cas, ce que j'ai aimé chez We Maintain, c'est d'avoir une start-up là où on n'attend pas de voir apparaître des start-up. Ça change effectivement de ce dont, de ce qu'on le voit aujourd'hui sur le marché. En plus, c'est un secteur qui est pas très sexy a priori, hein. Enfin, c'est.
Oui, mais c'est le premier moyen de transport du monde.
Eh oui, et le plus sûr.
Voilà.
Oui. En tout cas, un marché très très porteur. Avec des marges, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je crois que dans le monde, c'est 35 à 40% de marge sur 35 milliards de dollars. Hein, donc voilà, super super projet, en tout cas des marges à aller chercher. Et puis, un service dont les gains sont immédiatement perceptibles, en tout cas, par ceux qui viendront utiliser votre solution. Alors les moins, je reviendrai pas sur le nom, enfin on a commencé là-dessus. Premier point, bah, ça rejoint un petit peu Ever, c'est une plateforme. Et comment garantir la satisfaction de l'ensemble des techniciens que avec lesquels vous allez travailler, et ça dans le temps et durablement. Deuxième élément, je trouve que vous ne mettez pas suffisamment en avant vos atouts, tels que le prix. Alors, c'est peut-être pas un atout, je ne sais pas, mais j'espère qu'en tout cas, c'en est un. Deux, la satisfaction de vos clients. Trois, peut-être les délais d'intervention. Est-ce que sur les délais d'intervention, vous faites un effort aussi ou pas pour vous distinguer de ce que font les plus grands. Et enfin, dernier élément, comment garantir, lors du passage à l'échelle, pardon, cette qualité de service que vous souhaitez avoir avec l'ensemble des clients que vous allez réussir à conquérir, j'en suis sûr.
Bon, alors, on va pas réagir sur le nom, on l'a déjà fait tout à l'heure. On a bien compris c'est que fait. Les ascenseurs, c'était le point de départ et qu'il y avait après tous les autres services de maintenance liés notamment à l'habitat. Effectivement, garantir la satisfaction des ascensoristes qui décident de travailler avec vous sur la durée, comme dit Fabrice, c'est très important.
Alors déjà, je pense que le point de départ, c'est qu'il y a un niveau de satisfaction très 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 élevé, rémunération, valorisation, considération. L'autre point, c'est pas juste en fait faire leur travail, c'est vraiment la construction d'une communauté professionnelle qui existe déjà. Vous allez sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Ascensoriste de France, vous avez 900 techniciens qui échangent tous les jours sur des problématiques techniques. Ils ont besoin en fait d'avoir ce groupe, d'avoir les outils qui leur permet de monter en compétences, de s'améliorer. Et donc nous, on joue également sur ce côté-là avec notre outil technologique. Ensuite, sur l'aspect prix, ça dépend, en fait, pour être très clair. Par exemple, on est beaucoup moins cher sur les travaux. Sur les contrats, il y a des prix en fait, un peu délirants, soit très très bas, soit très 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 cher. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant de prendre un contrat, on se rend sur l'appareil, on regarde l'état et ensuite, on peut se positionner. Mais en tout cas, oui, sur les travaux, on est clairement moins cher parce qu'on marge beaucoup moins sur les pièces.
Et Fabrice insistait, oui, sur le fait que c'est vrai que vos atouts, c'est pas ce que vous avez mis en avant en premier dans votre communication, la façon dont vous nous parliez de We Maintain, sur les délais, sur la satisfaction des clients, sur le prix, là, vous venez de nous en parler. Oui. Peut-être que...
Alors, le point, ça, en fait... Tous les passagers, enfin, je pense que vous prenez tous l'ascenseur.
On est passagers dans un ascenseur.
Vous êtes passagers dans un ascenseur.
Autonome existe, en fait, hein, ça s'appelle un ascenseur.
Exactement. mais c'est vertical. On sait très bien quand il y a une panne, c'est toujours trop long.
Oui, c'est un facteur de stress aussi. Hein.
Et exactement.
Surtout si on est bloqué dedans, oui.
Oui, oui.
C'est ça, et également quand vous avez quelqu'un de plus âgé, ou si vous avez des jeunes enfants, parce que quand l'ascenseur fonctionne pas, c'est très compliqué. Enfin, c'est vraiment très compliqué, et c'est l'angoisse, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'il va être réparé. Il y a des personnes âgées qui doivent partir en maison de retraite parce que l'ascenseur il fonctionne pas bien. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et donc, c'est vraiment l'expérience client qu'on remet grâce avec la personne qui fait le boulot, qui est là, qui connaît son ascenseur, qui intervient plus vite. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais nous, on peut s'engager sur des temps d'intervention deux fois moins longs. Si la zone géographique le permet, généralement, oui, parce que c'est quand même du Paris intramuros et de l'approche couronne. Donc tout ça, c'est l'expérience client qui est remis en avant grâce, encore une fois, à la personne qui fait le service, qui est au milieu.
Et enfin, Jade, on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait quatre acteurs dominants. C'est vrai qu'il faut aussi évangéliser le marché, apporter une garantie de qualité de service à des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'auront pas forcément vu la BFM Academy et qu'il faut encore aller convaincre. La garantie de la qualité. Très vite, hein, parce que je crois qu'on est au bout, là.
Je fais très court. Il existe déjà des petites boîtes qui font de la maintenance et qui, elles sont toutes petites, elles peuvent pas scaler comme nous, mais elles existent. Et l'autre point, c'est que c'est notamment pour ça qu'on est sur la BFM Academy, c'est pour faire parler de nous. On a fait un concours du MIPIM, c'est pareil, le concours d'Harvard, c'est tout ça pour faire parler de nous, c'est l'idée.
C'est le moment pathétique de la BFM Academy, le terrible choix du coach.
BFM Academy, le choix du coach.
Et il s'appelle Fabrice Marcella, entre Evers, Park Horizon, We Maintain. Où votre cœur balance, Fabrice, cette année?
Alors c'est toujours très compliqué bien sûr, je vais faire deux déçus et un heureux ou une heureuse. Aujourd'hui j'ai le choix entre une start-up qui est déjà lancée, qui fait du chiffre d'affaires, qui a trouvé son marché, qui a une croissance incroyable, une start-up qui est sur le point de hacker un marché, qui est celui de la maintenance, et qui a peut-être besoin d'un coup de pouce, et une dernière qui est plutôt sur une vision moyen-long terme, puisque effectivement on parle de 2020, une croissance en tout cas assez forte au moment où le marché sera avéré. Donc je vais peut-être, pour choisir, m'appuyer sur ça et me dire quelle est la start-up parmi celles qui est ici, qui a le plus besoin au moment présent de la BFM Academy pour grandir. C'est pourquoi, vous l'avez peut-être deviné, j'ai choisi We Maintain pour l'aider à hacker ce secteur et voilà et aller chercher les marges des grands sur ce sujet-là.
Voilà, et bien We Maintain avec Jade Francine sera donc la troisième finaliste connue à ce stade. Je vous rappelle que les deux précédents sont 10 to 11 dans la blockchain dédiée aux entreprises et Displace pour la vente d'espaces publicitaires digitaux. C'était le choix de Fabrice Marcella. La semaine prochaine, on sera avec Evelyne Platnik-Cohen. Qu'est-ce qui nous attend à leur closer la
alors,
semaine prochaine?
Alors, elle devra choisir entre Sarah Martineau. Alors, Sarah Martineau, elle est professeure à la NCA de mathématiques algorithmiques.
C'est cool, ça.
Ça pèse. Ça elle a conçu un chatbot commercial, ça s'appelle IDETA. Il y aura Solène avec Clément Henry qui veut tout simplement créer une norme mondiale sur l'ensoleillement. Vous connaissez ISO 2000. Et ben lui, il veut faire pareil, exactement.
Il peut même le faire sur photo. Hein.
Absolument.
Déterminer l'ensoleillement dans un appartement sur photo.
Et puis votre Robin, Julien Latouche, il a 20 ans, il cherchait un avocat pour sa première boîte, il en a créé une deuxième. Il vous propose pour 5 euros de vous trouver l'avocat qu'il vous convient. Il est assez bluffant.
Et avec en plus des mots que tout le monde comprend. Parce que généralement, quand on parle du droit, c'est un peu confus. Voilà, BFM Academy, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission avec un coach qui devra éliminer l'un des trois candidats présents. Après, on rentrera dans une deuxième phase, mais il est trop tôt pour vous en parler. À la semaine prochaine.
BFM Academy saison 13, le 25 juin, il n'en restera qu'un.